Les par actualités. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Clotilde Saïe au micro de Canal M, bien sûr. En ce 9 novembre 2016, voici vos par actualités et les titres aujourd'hui. Pour une première fois depuis 2010, le nombre de plaintes des usagers du transport adapté connaît une importante baisse cette année. Et puis c'est sous le thème « Les proches aidants, faut les soutenir, il faut investir pour les soutenir ». C'est le slogan du regroupement des aidants naturels du Québec, le RANQ. Également aujourd'hui, le buffet gastronomique d'Adaptavie 2016 et puis austérité des organismes communautaires gaspésiens et madeliniens qui manifestent. Et puis il y aura deux entrevues aujourd'hui. Il y aura notamment Mohamed Degoul qui est intervenant formateur au programme Approche, qui offre des ateliers les mercredis et jeudis après-midi avec la gang à Rambrou. Il y aura également, je reçois en studio d'ailleurs, Marie-Claude Lépine, qui est une slameuse et aussi une conférencière. Et Marie-Claude Lépine nous parlera de sa vie, de sa façon de voir sa vie et de cette conférence qu'elle va donner le 1er décembre prochain. Alors, pour une première fois, écrit Madame Gaillard dans le journal 24 heures, pour une première fois depuis 2010, le nombre de plaintes des usagers du transport adapté connaît une importante baisse cette année. Au niveau opérationnel, on remarque une baisse pour le signalement des véhicules manquants ou en retard, ce qui contribue à la baisse du nombre de plaintes, a indiqué Amélie Régis, porte-parole de la Société de transport de Montréal, la STM, rappelant que l'entreprise a entrepris en 2015 un virage afin d'améliorer l'expérience de déplacement de sa clientèle. Loin de conclure à une amélioration du service, les organismes de défense des usagers croient que cette baisse reflète plutôt une lassitude. Au regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, leur applique, on ne croit pas non plus à un meilleur service. Il y a juste à voir les témoignages qui abondent sur les réseaux sociaux, souligne Linda Gauthier, présidente de l'organisme, qui a déposé une demande de recours collectif contre la STM, dénonçant le manque d'accès des personnes handicapées aux transports en commun. Entre l'été 2015 et l'été 2016, le temps d'attente moyen téléphonique au moment de la réservation a doublé, passant de 2 minutes 47 secondes à 7 minutes 35, une augmentation justifiée par la croissance des déplacements, explique la STM, qui dit travailler actuellement sur un sondage auprès de la clientèle du transport adapté, chose qu'elle n'avait pas faite depuis 2013. C'est sous le thème « Les proches aidants, pour les soutenir, il faut investir », oui, que le regroupement des aidants naturels du Québec, le RANQ, souligne la Semaine nationale des proches aidants qui se déroule depuis le 6 novembre. Les proches aidants sont impliqués sans rémunération auprès d'un proche malade en fin de vie ou avec des limitations. Par ce thème, le RANQ veut mettre en évidence la nécessité pour la société québécoise d'investir dans le soutien aux proches aidants. Les proches aidants assument 80% du soutien à domicile au Québec. Et pourtant, ils sont invisibles pour le réseau de la santé qui ne prend même pas la peine d'évaluer leurs besoins. Le réseau n'ayant pas d'outils pour évaluer leurs besoins, il ne peut leur venir en aide adéquatement. Cet état de fait contribue à l'essoufflement des proches aidants qui ne peuvent compter sur un soutien adéquat du réseau public. Dans cette optique, le RANQ demande au gouvernement du Québec que le réseau de la santé et des services sociaux se dote d'un outil d'évaluation des besoins des proches aidants et qu'une offre de répit bonifiée, adaptée aux différentes réalités des proches aidants soit disponible à la grandeur du Québec. Pour l'organisme, les fondations du système de santé s'effritent et n'arrivent plus à soutenir la population. Le manque d'investissement en soutien à domicile et en hébergement public ne fait qu'accroître les responsabilités des proches et ils sont pour plusieurs déjà à bout de souffle. Pour le RANQ, l'amélioration du soutien aux proches aidants passe aussi par une majoration du financement des organismes communautaires soutenant les proches aidants en concordance et solidairement avec les demandes portées par la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». À ce sujet, des centaines d'organismes communautaires ont cessé leurs activités régulières dans le cadre de cette mobilisation. Elle est avec nous en studio. Elle est d'ailleurs accompagnée par son conjoint. Je vous présente Marie-Claude Lépine. Marie-Claude, bonjour.
Bonjour, Clotilde.
Marie-Claude, conférencière.
Oui.
Slameuse.
Oui.
Une bonne femme drôlement en vie, qui voyage,
oui,
qui en fait des choses. Vous avez œuvré beaucoup aussi, d'ailleurs, dans le communautaire.
Oui, oui, exactement. Depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je m'implique. Là.
Et je précise, parce qu'ici, nous sommes à la radio et nous n'avons pas l'image, que vous êtes atteint par une maladie neuromusculaire qui s'appelle l'amyotrophie spinale.
Exactement.
C'est bien ça. Et oui. Donc, ça, c'est depuis votre plus tendre enfance.
Oui,
j'étais
diagnostiquée, j'avais 1 an et demi.
Alors, Marie-Claude, c'est pas de ça dont on va parler.
Bon,
parce que, exactement, parce que je vous connais un peu. Et voilà, maintenant que les choses sont dites, justement, parlons de cette vie-là qui est tout à fait possible, qui est non seulement possible, mais qui peut même être très belle.
Oui.
Souvent, c'est votre message. Vous avez une façon de voir les choses. Et vous avez une façon non seulement de les voir, mais de vouloir les partager. Et c'est la mission de votre vie.
Exactement.
Notamment par le biais de conférences, mais de spectacles-conférences.
Oui, hein? Spectacles-conférences.
C'est important de le dire.
Oui.
Parlez-nous-en, par exemple, de celles que vous allez donner le 1er décembre, mais que vous avez déjà données.
Oui. Je dis spectacles-conférences parce que pour moi, c'est vraiment un spectacle qui est porteur de sens. Dans le sens où je fais vivre aux gens une expérience de nouveaux regards. Mm-hmm. Je les amène dans mon intimité. Je leur partage ma façon de voir les choses, le regard que je porte en leur racontant mon histoire de vie.
Mm-hmm.
Mais de façon très théâtrale. Il va y avoir un jeu de lumière, il va y avoir un petit décor très sobre à la Fred Pellerin. Il va y avoir des comédiens qui vont interagir avec moi de façon audio et vidéo.
C'est fou quand vous dites Fred Pellerin, parce que j'ai vu quelques images déjà de ce spectacle conférence et j'ai tout de suite pensé à Fred Pellerin. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez approché?
Non, je ne l'ai jamais approché, mais j'aimerais bien le rencontrer. Là. Ouais.
Moi, je sais, vous savez, j'ai des instincts parfois. Et là, il y a mon instinct de scorpion qui dit vous devriez aller inviter peut-être.
Je suis toute ouverte.
Quel message fondamental voulez-vous transmettre, Marie-Claude Lépine?
Mais moi, je crois personnellement, profondément, que peu importe nos fragilités, on a des forces. Et qu'il faut justement aller puiser dans nos forces pour accomplir ce qu'on doit accomplir. Parce qu'on a tous une mission de vie. Et souvent, on l'oublie parce qu'on porte nos regards sur nos fragilités. On pense que parce qu'on a une fragilité, peu importe quelle qu'elle soit, on pense qu'on ne peut pas faire grand-chose. Alors que oui, il est possible de faire les choses d'une façon différente que ce qu'on est peut-être habitué de faire, une façon différente que ce que les autres font, mais on est tous porteurs d'une mission.
Oui.
Et on est des êtres.
Qu'on soit sur nos deux jambes.
Exactement.
Ou qu'on soit dans un fauteuil roulant.
Oui.
C'est ça, finalement. Oui. Hein? Votre message premier, c'est ça.
Oui.
Quoi. Alors, de quoi vous parlez pendant ce spectacle-conférence? De quoi il est question, par exemple?
Ben, il est question
pour nous appâter, là.
Oui, ben, de mes voyages. Beaucoup.
Ah oui?
Moi, j'ai voyagé dans différents pays avec mon sac à dos.
Oui.
Et je raconte que, ben, toute seule, c'est vrai que je n'aurais pas pu aller en voyage.
Oui.
Par contre, je me suis alliée avec des gens qui avaient les forces que je n'avais pas. Et dans ce temps-là, ben, il n'y en a pas de limite. Donc, j'ai pu aller au Nicaragua, entre autres, avec mon sac à dos et 2 amis. On a vécu une expérience extraordinaire, là. Et j'ai pu entrer dans une culture qui m'était étrangère. Et ça m'a apporté à voir les choses aussi autrement.
Quand les gens ressortent de votre spectacle-conférence, qu'est-ce qu'ils vous disent le plus? Qu'est-ce qu'ils en retiennent le plus?
Qu'ils ont reçu un cadeau.
Ah oui, hein?
Un cadeau, ce spectacle-conférence-là a été pour beaucoup un baume sur leur cœur. J'ai eu un commentaire qui m'a beaucoup touchée, qui m'a dit « Tu m'as fait réaliser que j'avais une valeur, que j'avais perdue, et toi, tu me l'as fait retrouver. » Parce qu'il y a beaucoup question de valeur, qu'on est des êtres humains avec une valeur. Et c'est ça. Et les gens partent avec un sentiment de liberté, ils sont motivés et ils croient qu'eux aussi peuvent accomplir des choses.
C'est un spectacle-conférence que vous avez intitulé « La vie, la subir ou la créer ».
Oui.
Quelle question de lunettes, hein, dans
oui, effectivement.
Qu'est-ce que c'est?
Parce que pour moi, tout est une question de regard.
Oui.
Les choses sont telles qu'elles sont, on est tel qu'on est. Et moi, je partage aux gens mon regard, mais à travers mes lunettes. Donc, au début de la présentation, j'ai distribué aux gens une paire de lunettes.
Ah oui?
Et au moment où je partage mes pensées, mes réflexions, je demande aux gens de porter les lunettes en même temps que moi. Et là, eux entrent dans mon monde.
Ouais,
et
ouais.
après, s'ils ont aimé ce qu'ils ont vu, s'ils ont aimé ce qu'ils ont ressenti, mais de façon invisible, ces lunettes-là, ils vont pouvoir les reporter et se les approprier eux-mêmes.
Ouais. Alors, ce spectacle, conférence, aura lieu le 1er décembre
oui.
prochain. C'est mm-hmm. à Mascouche.
À Mascouche, oui.
Ça se passe où, à Mascouche, exactement?
Au théâtre, à la Maison Théâtre Côte à Côte.
La Maison Théâtre Côte à Côte, c'est en soirée, j'imagine,
oui,
hein, évidemment.
Oui, c'est à 19h30.
À 19h30. Si vous aviez à vous décrire en quelques mots pour que les gens viennent vous voir et vous entendre, qu'est-ce que ce serait, Marie-Claude Lépine, pour finir?
Je suis une femme qui est toujours en quête de dépassement, qui va toujours faire les choses pour essayer d'aller le plus en contact avec moi-même possible, mm-hmm. avec l'être qui habite en moi. Peu importe mes fragilités, moi, j'ai une mission à vivre. J'essaie de la découvrir aussi au fur et à mesure que j'avance dans la vie.
Mais en tout cas, moi, je peux vous dire, parce que vous êtes là dans le studio, que vous êtes une sacrée belle femme. Mais vraiment, vraiment. Alors, ben, écoutez, je vous souhaite beaucoup de succès pour cette conférence-là et pour toutes les autres qui suivront, parce que je pense qu'il est important que quelqu'un comme vous, avec la mission que vous avez, se fasse entendre et se montre le plus possible. Alors, on rappelle que c'est à Mascouche le 1er décembre à la Maison Théâtre Côte à Côte. Et voilà, Marie-Claude Lépine, venez l'entendre, venez la voir. Merci beaucoup, Marie-Claude Lépine.
Merci, Clotilde.
Au plaisir. Par actualité régionale, maintenant organisé depuis 25 ans cette année, le buffet gastronomique d'Adaptavie sera de nouveau préparé grâce à la générosité des restaurateurs membres de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers région de Québec et l'école hôtelière Fierbourg le samedi 12 novembre à 18h à l'auditorium du siège social de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. C'est au 525 boulevard Wilfrid Hamel Est à Québec. Donc 525 boulevard Wilfrid Hamel Est à Québec. L'événement de cette année sous la présidence d'honneur de René E. Laflamme, vice-présidente exécutive, solution d'assurance et d'épargne collective chez IA Groupe Financier, vise à amasser des fonds pour Adaptavie afin de permettre aux personnes vivant avec des limitations fonctionnelles d'avoir accès à un éventail d'activités sportives adaptées à leurs conditions. Plus de 1000 personnes handicapées profitent des services d'Adaptavie chaque semaine. Austérité des organismes communautaires gaspésiens et madeliniens manifeste. Les organismes communautaires de la Gaspésie et des îles de la Madeleine ont rencontré les députés régionaux lundi. Comme ailleurs au Québec, ils sont mobilisés pour dénoncer les politiques d'austérité du gouvernement Couillard. C'est un texte d'Alix-Anne Turcotti qui nous dit un millier d'organismes communautaires de partout au Québec ont fermé ou fermeront leurs portes depuis lundi, donc lundi, mardi et aujourd'hui, mercredi. Les organismes communautaires sont tous financés, disent les manifestants gaspésiens. Pour la coordonnatrice des organismes communautaires de la Gaspésie et des îles, Geneviève Giguère, les dernières compressions du gouvernement ont affaibli ces derniers alors qu'ils étaient déjà à bout de souffle. On est carrément en situation d'urgence, clame-t-elle. Avec l'affaiblissement des services publics, on crée une pression supplémentaire sur les groupes communautaires. C'est une grave erreur de penser que les organismes communautaires peuvent pallier le désengagement de l'État. En les affaiblissant comme ça, on fonce dans le mur. C'est dangereux. En Gaspésie, les organismes communautaires estiment que la région a besoin de 25 millions de dollars en financement, alors que le financement actuel en est de 12 millions seulement. Et puis rappelons que cette action fait partie d'une campagne lancée par une coalition réunissant près de 4000 organismes qui réclament une augmentation de leurs subventions de base dès le dépôt du prochain budget provincial. Selon le porte-parole de la campagne des organismes communautaires, François Saillant, le manque à gagner au Québec serait de 475 millions de dollars. Pour sa part, le ministre de la Santé et des services sociaux, Gaëtan Barrette, assure que le financement des groupes communautaires n'a pas été réduit. Il est intervenant, formateur au programme Approche. Je devrais maintenant m'entretenir avec M. Mohamed Goul. Est-ce que je prononce bien votre nom d'abord ?
Oui, très bien, merci. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Goul. Je suis ravie de pouvoir parler avec vous. Et le sujet de cette conversation, c'est la découverte du programme Approche. Approche pour art, programme, percussion, recherche, organisation sociale et humaine. Et ça fait partie, ça, de la Fondation Educated, hein ?
Exactement, qui a son siège à Laval.
D'accord.
Et qui développe ce programme, une partie en Abitibi, parce que c'est là que je vis. Et
okay.
Une partie à Gatineau, puis une partie aussi à Montréal, avec la gang à Rambrou.
Alors, c'est un programme musical, c'est ça ?
Oui, basé sur le rythme, donc oui, musical.
Ok. Alors, avec une visée thérapeutique dont j'aimerais que vous nous parliez.
Il y a une visée de bien-être. Le mot thérapeutique, je mettrais ça entre guillemets, c'est sûr que
d'accord.
La pratique de la musique a un effet thérapeutique sur chaque personne, peu importe la différence, peu importe l'handicap. Donc, mais la visée avant tout, c'est une visée de bien-être, d'être bien lorsqu'on est ensemble à travers le rythme, à travers les percussions pour commencer, et puis tranquillement on intègre la voix, la guitare, le piano, puis d'autres instruments pour former après un groupe et pouvoir faire des spectacles à la fois amateurs et voire professionnels aussi.
Ça s'adresse à qui ?
Au départ, moi, je suis au Québec depuis 2000. J'étais éducateur en France.
Okay.
Je travaillais dans le monde de l'autisme principalement, pas exclusivement, mais principalement. Puis arrive au Québec, les liens qu'avait mon association à l'époque étaient avec l'Abitibi Témiscamingue, Rouyn-Noranda précisément. Et donc, du coup, ici, il y avait un enjeu pour les adultes autistes où il y avait vraiment plus d'activité, plus de prise en charge. C'était vraiment sinistré, comme on dit, au niveau des services. Et je pense que même maintenant, lorsqu'on arrive à 21 ans, il y a beaucoup de difficultés de trouver des programmes. Donc, on a démarré avec un groupe d'adultes, et la surprise a été de taille parce qu'en l'espace de 2 ans, on a fait un album, on a monté un groupe, on a fait un collectif qui s'appelle La Bohème, on est parti en Europe, on a fait beaucoup de choses, et puis une recherche est intéressée à ce programme-là, et puis voilà, ça a été validé par la suite, donc vraiment 4-5 années d'exploration, de folie, puis de concrétisation aussi.
De folie ?
Oui.
Comme quoi ?
De partir à 22 personnes, dont 7 autistes, qui n'ont pas forcément quitté l'Abitibi ou Rouyn-Noranda en avion, d'aller rencontrer d'autres autistes avec qui je travaillais à l'époque, qui sont toujours là dans un chapiteau qui s'appelait Les Turbulences.
Oui.
Ce voyage a fait l'objet d'un film aussi, qui s'appelle L'autiste au tambour.
Alors oui, évidemment, je ne voulais pas passer à côté de cela. Hein. Ça, c'est un documentaire qui a été primé, qui a été...
Tout à fait.
Quelle belle, parce qu'évidemment c'est une métaphore de l'enfant au tambour, hein, du
oui,
hein,
tout
c'est
à fait,
ça.
Tout à fait.
Bon, c'est ça. Vous diriez que ce programme, avant qu'on parle de ce documentaire-là, vous
bien
diriez
sûr.
Que le programme Approche, qu'est-ce qu'il procure aux participants?
Il leur donne accès déjà à d'autres personnes, à une relation de partage, à pouvoir faire la même chose au même moment, ce qui est dans ce contexte-là très très important et pertinent, et voire difficile à avoir dans des programmes traditionnels, de pouvoir créer, de pouvoir faire une création collective, de pouvoir avoir des projets de société, des projets de vie, d'être acteur de sa propre vie. Donc déjà tout ça, et puis de pouvoir aussi, dans un premier temps, développer la concentration. Je pense que c'est ce qui amène n'importe quelle personne, d'ailleurs, à pouvoir s'investir dans un projet social, culturel, lorsqu'on peut se concentrer à une tâche, ou à une action, ou à un événement, ou à une production. Donc c'est vraiment la priorité. Ce qu'on cherche au départ, sans forcément mettre l'accent dessus, c'est de battre le rythme. Tout simplement.
Ouais.
Et pas forcément de mettre de mots au début,
les
mots viennent par la suite.
Ok. Tous les ateliers sont filmés ?
Oui.
Pourquoi ?
Ça, c'est une grande surprise, parce que au tout début, quand j'ai commencé à travailler en Abitibi, j'avais mon groupe de 6 adultes autistes que je voyais individuellement en sous-groupe et en grand groupe, et on voyait des choses extraordinaires, et puis on me disait « Mohamed, c'est bien sympathique, t'es un bon musicien, un bon animateur, mais bon, il se passe pas des choses si extraordinaires que ça. » Pour aller plus loin.
Ah.
Donc j'avais un ami qui avait une caméra, qui était en formation audiovisuelle au cégep de l'Abitibi, puis qui a décidé de me suivre. Et on a commencé à filmer, puis c'est devenu vraiment maintenant un outil d'évaluation, parce que à travers ces films-là, on a développé des items d'analyse avec la recherche, tout ça, pour pouvoir vraiment observer des choses bien précises lorsqu'on regarde les vidéos. Donc maintenant, tout est filmé depuis 2001.
Alors, ce documentaire...
Oui.
Il est d'Yves Langlois, l'autiste au tambour. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce documentaire, M. Boulle ?
On vous présenter un petit peu à la fois le groupe, de voir des personnes qui, au départ, ne communiquaient pas forcément, n'avaient pas forcément de projet de vie, pour certains et pas du tout pour d'autres, étaient cantonnés vraiment aller au centre d'achat, aller au petit resto du coin, pas forcément, les familles pouvaient recevoir personne chez eux ou très peu de monde, donc c'était une vie vraiment très très limitée. Et ce qu'on voulait montrer, c'est que l'art n'est pas seulement un loisir, c'est aussi un outil très puissant d'intégration. Et le fait à l'époque de voir un groupe d'autistes avec des parents, parce que c'est vraiment un projet familial, les parents sont venus, les grands frères, grandes sœurs étaient aussi présents, on était 22 personnes. Voilà, donc, et puis le fait aussi que l'autiste français, l'autiste italien, l'autiste algérien ou québécois n'a pas de frontières.
Non,
c'est assez marrant. C'est marrant et à la fois intéressant aussi en termes de développement. Donc on voulait montrer ça, montrer que la culture a une place importante dans le développement de ces personnes-là et puis devrait prendre encore plus de place parce qu'elle répond vraiment à des problématiques importantes.
L'autiste au tambour de Yves Langlois qu'on peut encore voir sur YouTube, je pense, non ?
Sur tout TV.
Sur tout TV. Je vais corriger ça parce que sur ma feuille, c'était sur YouTube, donc sur tout TV. Dites donc, pour finir, ils vont avoir le droit à une sacrée journée le 15 novembre prochain ?
Oui, tout à fait.
Vous les amenez où ?
À la Maison Symphonique, à Montréal, j'ai rencontré la directrice du service éducatif, Sophie Laurent, avec un collègue, François Bédard.
Oui.
Puis on a discuté justement de la musique et de la place du rythme dans le monde de l'autisme et du lien possible entre l'orchestre symphonique et le monde de l'autisme. Et donc on va faire une première rencontre. C'est une entente de développement, de voir un peu qu'est-ce qu'on peut partager. Donc on va partir avec un groupe de 10 personnes, 10 participants, de la Galère-en-Brou, de Laval, de l'Abitibi, puis de Gatineau. Ça vient un peu de partout, donc on va assister à une pratique de l'orchestre symphonique, on va visiter la maison symphonique, on va rencontrer les intervenants du milieu et puis on va partager un petit moment quoi.
Oh, bah écoutez, vraiment, ils vont passer s'ils gardent le même souvenir que moi de ma première visite assez récente d'ailleurs à la maison symphonique, j'aime mieux vous dire qu'ils vont s'en souvenir toute leur vie.
Et je suis aussi fébrile que moi.
Monsieur Mohamed Ghoul, encore une fois, je le dis souvent à cette émission, mais vous faites partie des gens importants et vous faites avancer des dossiers et bravo.
Merci à vous d'avoir pris le temps et au plaisir de vous rencontrer.
Au plaisir aussi à vous. Au revoir, Monsieur Ghoul.
Au revoir, Madame Claudite.
Par actualité, internationale et nationale, vers un nouveau symbole international d'accessibilité. Il s'appelle Brian Gleeney, c'est un artiste de graffiti, il est professeur de philosophie à l'université Norwich dans le Vermont, et il propose une nouvelle conception de l'image, vous savez, cette image qui est utilisée aux quatre coins du monde, de cette personne qui est en chaise roulante avec un dos bien droit. Et lui, il voudrait un petit peu déstabiliser les gens, les forcer à remettre en question les préjugés et idées reçues à propos des capacités des personnes handicapées. Alors, le nouveau pictogramme représente une personne assise, en fauteuil roulant, mais penchée vers l'avant et un bras levé derrière elle, comme si elle se propulsait, vous savez, un petit peu comme les sportifs finalement. Un symbole actuel montre plutôt une personne se tenant droite dans son fauteuil. Donc là, il y a un petit côté, c'est vrai, immobiliste. D'ailleurs, j'ai encore à côté de moi Marie-Claude Lépine. Marie-Claude, je suis sûre que vous faites partie des gens que ça va réjouir, ça.
Mais effectivement, parce qu'on est, c'est pas parce qu'on est assis qu'on est immobile,
exactement.
On est en action.
Hein. Exactement. Alors, c'est pour ça que je suis contente que vous soyez là pour réagir. Après avoir passé des années à superposer ses propres autocollants sur l'ancien symbole dans des endroits publics, deux États américains ont fini par le faire sien. L'État de New York et le Connecticut l'ont adopté pleinement. Non seulement ils ont adopté le pictogramme, mais aussi ils ont changé le libellé de « Handicapped Space », donc réservé aux personnes handicapées, à « réservé tout court ». Ou bien à « Access Space », espace d'accès facile, raconte M. Gleeney. Jusqu'à présent, la ville de Nanaimo, en Colombie-Britannique, est la seule cité canadienne à avoir converti ses pancartes au nouveau pictogramme. Mais le professeur fait remarquer que d'autres communautés ont déjà présenté des pétitions à leur gouvernement en faisant pression pour adopter le nouveau symbole. « Peut-être un peu d'espoir pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Espoir en la personne de Michael J. Fox, qui déjoue absolument tous les pronostics. En 1991, l'acteur canadien Michael J. Fox, donc on lui fait part d'un diagnostic sans appel. Il est atteint de la maladie de Parkinson, cette maladie neurodégénératrice qui affecte les mouvements et contre laquelle on ne peut rien. À seulement 29 ans, les médecins lui prédisent alors quelques 10 ans de carrière supplémentaire. Il a aujourd'hui 55 ans. Il est l'interprète de, on s'en souvient bien de Marty McFly, hein, c'est bien ça. Eh bien, il est encore sur le devant de la scène, notamment pour ceux qui aiment ce genre de série. Depuis 2010, il est Louis Canning dans la série The Good Wife. Et il montre ainsi à tous qu'une vie avec Parkinson, c'est possible. En rafale maintenant, le RANC profite de la Semaine nationale des proches aidants pour remettre le prix reconnaissance des proches aidants 2016 à Madame Lise Hamelin du réseau des aidants naturels d'Autrey. Par ce geste, le RANC veut insister sur la contribution remarquable des proches aidants à la société québécoise et les différents visages de leur réalité. Pour la présidente du RANC, Madame Hamelin représente l'ensemble des proches aidants au Québec. Elle a toute mon admiration, je lui lève mon chapeau, ainsi qu'à tous les proches aidants. Le Centre d'action bénévole de Montréal-Nord, le CAB, en collaboration avec la Table de quartier Montréal-Nord en santé, Coup de pouce Jeunesse Montréal-Nord et l'organisme Trajectoire, vous invite à la deuxième édition du Salon de l'engagement citoyen de Montréal-Nord. Ça va avoir lieu le mercredi 16 novembre de 13h30 à 19h au Centre des loisirs de Montréal-Nord. C'est 11121, donc 11121, avenue Saulk, et c'est une entrée gratuite. Pour les citoyens, ce salon est l'occasion de découvrir les opportunités afin de créer leur propre forme d'engagement, en s'informant, s'exprimant, réseautant, s'imprégnant de tout ce qui se fait en termes d'engagement à Montréal-Nord. De plus, des surprises et performances artistiques seront présentées tout au long de la journée. Pour les organismes, c'est une excellente opportunité pour se faire connaître, bien évidemment, rencontrer d'éventuels bénévoles et découvrir de nouvelles formes d'engagement. De plus, l'événement permet de réseauter et d'échanger avec une quarantaine d'organismes de Montréal-Nord et de la grande région métropolitaine. Sachez qu'il y aura 3 conférences qui seront présentées au cours de l'événement. À 14h, Démystifier le monde de l'engagement, une présentation du Forum Jeunesse de Montréal. À 15h, L'entrevue pour le bénévolat, un levier pour la recherche d'emploi, une présentation d'Impulsion Travail. Et à 18h, S'impliquer pour une alimentation saine et abordable dans une coopérative près de chez vous, une présentation de Panier Futé. Voilà ce qui conclut les paractualités du jour en ce 9 novembre 2016. Clotilde Seille au micro de Canal M qui remercie son équipe Anne-Laure Janson et Jean-Sébastien Laliberté qui vous remercie vous d'avoir été présent, qui vous souhaite une très agréable journée, qui vous donne rendez-vous demain à 11h30.